allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Ton nom. Seigneur, tu es fort dans les combats. Tu es fort dans les combats de nos vies, Seigneur. Seigneur, pour ça je te loue, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es bon pour chacun de nous, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur, premièrement, Seigneur, nous voulons te donner toute la place. Il n'y a personne qui est venu ici pour voir un homme. Chacune des personnes qui est ici ce matin, Seigneur, a une place privilégiée dans ton cœur. Ils sont venus pour te voir, Seigneur. Je demande au-delà de ma voix, Seigneur, qu'ils puissent entendre la voix en arrière de la voix qui est la tienne, Seigneur. Et Seigneur, que tous les ossements qui sont desséchés dans leur vie puissent prendre vie ce matin. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Jésus, ton nom, Seigneur, dans ton nom tout puissant. Ce nom qui change toutes les choses. Ce nom qui vivifie, qui fortifie, qui restaure. Nous te remercions et ceux qui le croient peuvent dire Amen. Amen. Praise God. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Et c'est un privilège pour nous d'être ici, de servir un Dieu puissant, un Dieu puissant. Et si tu ne l'as pas encore vécu, je te dis qu'aujourd'hui, à la fin de ce service, tes ossements vont dessécher. Le titre de notre message ce matin est « Ces os pourront-ils vivre ?» Il y a plusieurs circonstances de vie dans lesquelles on peut se poser des questions. Des défis de santé, des défis d'emploi, des défis de couple. Il y a plusieurs défis devant lesquels nous pouvons faire face et dire « Seigneur, est-ce qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel ?» Et j'aime ce texte d'Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, 1, 14, dans lequel Ézéchiel se trouve devant une circonstance, et nous allons le lire ensemble, et nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit sur les ossements secs, sur les situations dans lesquelles nos os, les situations dans lesquelles notre squelette n'a plus de chair, n'a plus de peau. Qu'est-ce que Dieu dit pour cela? Nous avons la diapo 2. Vous savez, selon les lois de l'aérodynamique, on dit que le bourdon est trop gros et trop poilu et a des ailes trop petites pour voler. Mais le bourdon, lui, il est heureux parce que personne ne lui a dit qu'il ne peut pas voler. Et il vole. Alors, très souvent, l'impossibilité dans notre vie aussi est due par rapport au fait que depuis qu'on est jeune, on nous a dit « tu ne vas pas être capable. Tu ne peux pas. Pourquoi toi? » Non, ça arrive aux autres. Pourquoi pas à toi? Et aujourd'hui, je suis ici pour remettre ta manière de penser en question. La Bible nous dit qu'il ne faut pas pour nous être conformés, mais il nous faut être transformés par le renouvellement de la parole de Dieu. Pas transformés par un film, mais par le renouvellement de la parole de Dieu. Et cette parole transforme encore aujourd'hui. Dans Ézéchiel 37, 1, 14, il est écrit ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi. » Ici, on parle d'Ézéchiel. « Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. » Je prophétisais, et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. » Voici, ils disent, « Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Un texte très riche. C'est un texte très... On voit des ossements. Et à la prochaine diapo, il y a un squelette. Vous savez, dans les ossements, on peut voir Ézéchiel qui voit ses ossements partout. Et c'est un signe de mort. C'est carrément un film d'horreur. Et là, tout à coup, on voit les ossements se lever. Vous pensez que Thriller, c'est nouveau, puis c'est bien imaginé. Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu est encore mieux imaginée. On voit les ossements se relever. Ici, Ézéchiel voit un film avant la télévision. En HD. Et on voit les nerfs commencer à se créer dessus, la peau. Certains théologiens disent même que peut-être ici, Dieu lui donne une révélation de comment la création a pris place, comment Dieu a créé l'homme. J'aurais pu faire une prédication sur chacun des os que nous avons sur notre corps, mais ça sera pour une prochaine prédication. Parce que chacun des os a vraiment une signification particulière. Mais ce matin, j'aimerais premièrement qu'on s'attarde au sens premier. C'est quoi le sens premier de ce texte? Ézéchiel prédit le réveil politique de sa nation et la réunion de ces deux parties divisées. Nous savons que Israël, le royaume d'Israël et le royaume de Juda ont été détruits. Israël par les Assyriens, Juda par Babylone, et qu'il y a eu cette déportation de toute l'élite, de tous les intellectuels, de tous les fils de David vers Babylone. Cette nation est détruite, elle est décimée. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus de gouvernement, et tout ce qu'on peut avoir comme espoir est détruit. Tout ce qu'on peut s'imaginer, même dans nos cœurs, certains même diront, dans ce temps-là, ok, tu dis que Dieu est avec nous, mais pourquoi? Pourquoi tout cela nous arrive? Si Dieu est avec nous, pourquoi sommes-nous ici comme esclaves? Pourquoi sommes-nous enchaînés? Pourquoi sommes-nous sous l'oppression de Babylone? Et là, Dieu dans son amour, envoie Ézéchiel afin de proclamer des paroles. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici ce matin, mais il y a des circonstances dans ta vie qui sont mortes. Dieu m'a montré dans la prière qu'il y a des gens, et il me faut en tant que pasteur emmener l'Église à voir par la foi, ce que Dieu va faire dans ce lieu. Parce qu'il y a des gens qui, vous venez semaine après semaine, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Et vous ne croyez pas que Dieu est capable d'emmener des ossements desséchés à la vie. Et Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur pour cette Église. Que ce que Dieu veut activer, Dieu veut que moi, en tant que leader, je puisse proclamer la vie. Et semaine après semaine, c'est ce que nous faisons. Mais il y a des circonstances dans ta vie, il y a des lieux dans ta vie où est-ce que tu n'y crois plus. Parce que tu as vécu échec après échec, tu as été déporté. On t'a emmené, on t'a mis des chaînes, et tu es à Babylone. Et tu vis sous l'empire babylonien. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les prédictions que Dieu a pour nous. Nous pouvons lire ce texte sur cette déportation dans deux rois, dans deux chroniques, Esdras, Néhémie, le prophète Jérémie, Ézéchiel, lamentation. Alors quand tu te lamentes, tu te dis, hey, je suis chrétien, mais je me lamente, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a un livre de lamentation. Agée, Zacharie, et dans les psaumes.
Et c'était une genre de Shoah. Et si je parle de Shoah, pourquoi? Parce que nous savons tous comment il y a eu ce plan d'exterminer le peuple juif. Présentement en Ukraine, il y a vraiment quelque chose qui va certainement se dérouler dans les heures à venir. Et nous savons qu'un peuple, un des peuples qui est en danger, c'est le peuple juif. Dans le monde aussi, il y a des coins dans lesquels, en République démocratique du Congo, il y a à peu près 6 millions de morts depuis 1997. 6 millions de morts. Alors nous savons qu'il y a des peuples qui sont décimés. Et ce message est un message d'espoir. Quelle que soit la manière que nous sommes attaqués, quelle que soit la manière que nous pouvons mourir, notre Dieu est un Dieu qui, avec la mort, emmène la résurrection. Il y a 14 prédictions. Et ces 14 prédictions, nous allons aller avec la première, c'est Dieu dit, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Dans Actes 2, 38, Pierre dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et ici, j'aimerais dire, nous sommes une église qui croyons au don du Saint-Esprit. Nous sommes une église qui croyons que le Saint-Esprit est essentiel. Et c'est quoi le don du Saint-Esprit? La Bible nous parle très, très clairement de c'est quoi? Premièrement, comment l'avoir? Il nous faut premièrement nous repentir, avoir foi. Ézéchiel est devant ses corps, et il est devant cette masse de corps, et Dieu lui parle et lui dit, penses-tu que ces corps peuvent revenir à la vie? Ézéchiel, dans son incrédulité, dit à Dieu, « Tu le sais. Tu le sais. » Et ça commence par là. Est-ce que tu reconnais que Dieu est Dieu? Oui, toi, tu es limité. Toi, tu ne peux pas. Mais est-ce que quand Dieu te parle, tu dis « Tu le sais. » Quelqu'un qui ne dit pas « Tu le sais » ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il a contrôle de toutes ses pensées. Et est-ce que tu dis « Tu le sais » quand tu es dans une circonstance difficile, une circonstance sans impasse? Tu dis « Seigneur, moi, je ne comprends pas, ça va mal, mais tu le sais. » Tu le sais. J'aime David au psaume 51 qui dit, il implore Dieu, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit, rends en moi la joie de ton salut. David avait compris qu'il y a un lieu où est-ce que nous pouvons faire le péché impardonnable, qui est de rejeter le Saint-Esprit, qui est d'attrister le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et certains théologiens disent que c'est quand il a fait le péché avec Bathsheba qu'il est allé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Je ne sais pas quelles circonstances de vie tu es présentement, mais je pense que ça va commencer par, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Tu dois, dans la prière, dans le lieu secret, dire, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Renouvelle l'Esprit qui est en moi. Renouvelle l'Esprit qui est en moi. Et il savait que s'il ne continuait pas de se repentir et de rechercher Dieu, il courait le risque de vivre séparé de Dieu. Alors, à quel signe on reconnaît le Saint-Esprit? Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Est-ce que tu as la joie ce matin? Est-ce que tu as la joie ce matin? Est-ce que tu as la joie lundi? Est-ce que tu as la joie mardi? Est-ce que tu as la joie mercredi? Jeudi, vendredi. Est-ce que tu as la joie à la maison? Oui, c'est super. Si tu n'as pas la joie, dis Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi. Est-ce que tu es patient? Seigneur, remplis-moi de ta patience. Remplis-moi. Et c'est là que ça commence. Et un enfant de Dieu réalise que pour vivre totalement couvert du Saint-Esprit, il nous faut chaque matin renouveler. Il faut aller à la station. Il n'y a personne d'entre nous qui ne va plus à la station d'essence depuis 2000 ans. Il faut retourner à la station. Remplis-moi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de feu, plus de toi. Ceci me rappelle cette histoire. On dit qu'il y a une légende qui dit que le diable, un bon jour, et c'est la prochaine diapo, a fait un yard sale, une vente aux enchères, et il vendait ses outils. Alors, et les gens les plus cyniques et les plus machiavéliques se sont retrouvés là-bas. Et comme ils aimaient manipuler comme le diable, ils arrivent et ils commencent à acheter. Ils achètent la médisance, ils achètent la convoitise, ils achètent quelque chose. Mais ils se retrouvent devant un outil qui est écrit, celui-ci n'est pas à vendre. Et ils posent la question au diable, mais pourquoi cet outil n'est pas à vendre? Le diable lui dit, mais ceci, je ne peux pas vivre sans ceci. Et ceci me permet de tout faire. Ceci, avec n'importe quel homme, je peux tout faire avec ça. Je dis, mais comment ça s'appelle? Il dit, ça s'appelle le découragement. Avec le découragement, je peux tout faire. C'est quand les gens commencent à maudire Dieu, commencent à rentrer dans la murmure et se bâtir des murs. Moi, je peux venir. Et moi, je peux rentrer avec la convoitise. Je peux faire tout le restant. Alors, ça, ce n'est pas à vendre. Alors, ce matin, quand je te demande d'être renouvelé par le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu veut faire entrer son esprit en vous, pourquoi? Parce que quand son esprit est en vous, il y a un renouvellement de pensée, la joie, la patience, toutes ces choses que tu n'es pas capable de faire par toi-même, Dieu t'aide et Dieu te ravitaille. Oh Jésus! Et maintenant, quand quelqu'un t'énerve, tu dis, Seigneur, donne-moi la patience et l'amour, mais ne me donne pas la force. Sinon, oh, hallelujah! La deuxième des choses que Dieu veut faire, que Dieu proclame dans ce verset, c'est qu'il va te donner des nerfs. En 2014, les chrétiens, nous avons besoin de nerfs. Et dans la version juive, le terme nerf, c'est tendon. Mais c'est le même terme qui signifie les tendons, oui, mais aussi les nerfs. Les nerfs. On disait, quand j'étais enfant, mon père me disait, mon fils, tu dois avoir des nerfs solides. C'est ce qu'on dit. En Afrique, on parle aux enfants, on dit, vous devez avoir des nerfs solides. Et enfant de Dieu, peuple de Dieu, en 2014, si tu veux finir ta course en tant que chrétien, il te faut avoir des nerfs. Et Dieu dit, je vais te donner des nerfs. Et les nerfs, c'est un cadeau de Dieu. Une des définitions des nerfs, faisceau de tissu conjonctif résistant, élastique, fibreux. Certains synonymes des nerfs, c'est le dynamisme, l'énergie, hein, le ligament, la puissance, le tendon, le tonus, la vigueur. Et il y a une citation de Mohamed Ali. Vous savez probablement que j'aime beaucoup la boxe, Cassius Marcellus Clay. J'aime beaucoup ce boxeur et pour ses combats. Mais il y a une citation qu'il dit, qui décrit bien le chrétien. Il a dit ceci, « Je suis prêt à lutter avec un alligator. Je suis prêt à affronter une baleine. Je suis prêt à menotter la foudre. Je suis prêt à jeter le tonnerre en prison. Je suis prêt à tuer un rocher. Je suis prêt à blesser une pierre. Je suis prêt à hospitaliser une brique. Je suis prêt à rendre le médicament malade. » J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, un chrétien doit avoir du tonus. Tu dois avoir du tonus dans la vie. Si tu n'as pas de tonus dans la vie, tu es déjà mort. Tu as besoin de la force. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, Seigneur, je suis prêt. Quel que soit le défi, quel que soit le challenge, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu dois dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur. Seigneur, je sais ce qu'ils t'ont fait, Seigneur, mais tu avais du tonus. Donne-moi la force. Seigneur, toi, tu avais l'énergie, tu avais le dynamisme. Seigneur, ce matin, je me lève, mais ça ne me tente pas de sortir du lit. Il y a des gens qui étaient ici à 7h du matin. 7h du matin. Ils sont arrivés ici à 7h du matin. Je suis champion. C'est pour ça que quand quelqu'un est venu me dire, « Aujourd'hui, il n'y a pas du monde. » Il y a du monde. Tu es là. Si toi, tu es là, il y a du monde. Regarde pas à côté, regarde pas à gauche et à droite. Si tu es là, il y a du monde. L'Église a commencé avec 11 personnes. Et si les disciples à tous les jours regardaient à côté pour dire, est-ce qu'il y a des gens, on ne serait pas ici. Vous comprenez? Jésus va nous multiplier. Jésus va agir en nous. Mais arrête de regarder à celui qui n'est pas là. Tu es là. Et du tonus. Et du tonus. Je ferai croître sur vous la chair. Et la chair, c'est la foi. La chair, c'est ce qui te tient, c'est la confiance en Dieu. Dans Hébreux 11, il est écrit, « La foi est une espérance des choses qui ne sont pas vues. » Beaucoup, plusieurs, malheureusement, aiment voir. Oui, pasteur, mais si. Oui, mon époux, mais si. Mais si. Vous savez, même les lampes qu'on a ici, s'il y avait trop de « mais si », on n'en aurait pas. Je lisais juste sur les frères Wright. Combien de fois ils se sont fracassés. Dieu fait son œuvre avec des gens qui croient avant de voir. Il faut que tu croies avant de voir que ton mariage va fonctionner. Il faut que tu croies avant de voir que ton travail va fonctionner. Il faut que tu croies avant de voir que ton voisin, tu vas avoir un meilleur voisin. Il Peut-être dire, Seigneur, je vais avoir un meilleur voisin. Il faut que tu crois avant de voir. Je crois avant de voir que ces bancs ici sont pleins. Ça va arriver. Il faut que tu crois avant de voir. Il faut que tu crois avant de voir. C'est très important. Tout commence par là. La foi est un principe d'action et de pouvoir qui motive nos activités. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être motivé. Les gens qui ne sont pas motivés n'ont pas de foi. La première des choses que je fais avec mes enfants, je dis, qu'est-ce que tu veux devenir dans ton futur? Dis-moi, qu'est-ce que... Parce que c'est cité que tous les enfants qui savent ce qu'ils veulent devenir vont se tenir loin des problèmes. Qu'est-ce que tu veux devenir? Dis-moi. Dis-moi. Pas ce que moi, je veux qu'ils deviennent. Qu'est-ce que toi, tu veux devenir? Je vais t'aider, je vais t'équiper. Qu'est-ce que tu veux devenir? Voici ce que tu peux faire. Je donne 2-3 conseils. Voici ce que tu peux faire. Mais qu'est-ce que toi, tu veux devenir? Et quand un enfant réalise ce qu'il veut devenir, il va se tenir loin des mauvaises voies. La même chose avec nous. Seigneur, Seigneur, donne-moi une vision. Ce matin, il y a des gens, tu n'as plus de vision. Puis ce que tu as besoin pour sortir du nuage noir sous lequel tu es, c'est Seigneur, donne-moi une vision. Seigneur, donne-moi une nouvelle vision, une fraîche vision. Tu es marié depuis quelques années, 50 ans. Seigneur, donne-moi une fraîche vision pour mon mariage. Tu es marié depuis 10 ans. Seigneur, donne-moi une fraîche vision. Seigneur, donne-moi une fraîche vision, Seigneur, pour mon travail. Donne-moi une fraîche vision pour mon église. Mon église, où est-ce que je vais? Seigneur, quelle est la vision? Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui suis là juste pour chauffer un banc. Oh, Jésus. Jésus, donne-moi une vision pour la semaine. Donne-moi une vision pour mes enfants. Mon peuple périt faute de connaissance, mais par manque de vision, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. La vision, c'est important. Et c'est important d'avoir la foi pour acquérir la sagesse et la connaissance. Jean-Paul Sartre, un cynique, existentialiste, philosophe reconnu, a dit ceci, « L'homme ne peut compter sur personne d'autre que lui-même. Il est seul, abandonné, sur la terre, au milieu de ses responsabilités infinies, sans aide, sans autre but que celui qu'il se fixe, sans autre destin que celui qu'il se forge lui-même sur cette terre. » Quel cynisme! Il y a des gens qui vivent leur vie selon la philosophie de Sartre. Mais je suis content que Jésus a dit, « Je suis le chemin et la vie. Celui qui vient à moi, il y aura des sources d'eau vive qui vont jaillir de lui. » Ce n'est pas le cynisme, ce n'est pas des promesses, des motivations positives. C'est le Dieu qui nous a créés, qui nous dit, « Fais-moi confiance. » Ici, j'avais tout le monde. Était en joie, intransigeant. La troisième chose que Dieu dit, il dit, « Je vous couvrirai de peau. » Ça, c'est un grand défi. Plusieurs d'entre nous, on se couvre de peau nous-mêmes. On veut paraître au lieu d'être. On se couvre, c'est Dieu qui couvre de peau. Et quand Ézéchiel les voit, il les voit avec la chair, il les voit avec les nerfs, les tendons, et Dieu dit, « Je te couvrirai de peau. » Et Dieu m'a montré, quand Dieu nous couvre de peau, ça veut dire quoi? Même quand on est à l'église ici, il nous faut être vulnérables. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Il y a des gens, ils sont surpris. Oh, ce qui est arrivé au pasteur là. Il n'est pas parfait. Tu es surpris de quoi? Oui, on veut vivre une vie dans l'intégrité. On veut vivre une vie dans la droiture. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des hypocrites professionnels. Le professionnalisme, c'est super. Mais Dieu est allé chercher un homme comme David. Regardez le CV de David et regardez le CV de Saül. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a rejeté Saül? David va même jusqu'à manger le pain du propitiatoire. C'est comme s'il venait bouffer la nourriture de la communion ici. Mais Dieu le pardonne. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur pour Dieu. Il a un cœur qui dit, Seigneur, je sais, je n'arrive pas, ce n'est pas par mes fautes. Il ne pêche pas. Par exprès, il ne pêche pas, il n'est pas poussé au péché par passion. Ceci dit, il est réaliste. Il sait que sans Dieu, il n'a pas de peau. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. » S'humilie. S'humilie veut dire, « Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai essayé. Seigneur, mon comportement, j'ai essayé. » J'ai essayé, j'essaie, je ne suis pas capable. Maintenant, Saint-Esprit, viens en moi. Seigneur, je suis désespéré, Seigneur, j'essaie. Je m'habille de l'espoir, je n'arrive pas. Seigneur, à chaque fois que je pense à des choses qui sont belles, Seigneur, je viens, le cynisme est en moi. je suis une personnalité négative. Tu sais, tu parles au Seigneur avec ta réalité. Seigneur, j'aime le négatif. Seigneur, j'aime la médisance. Ah, oh, quand quelqu'un critique, ça me fait du bien. Mais c'est quand tu te parles au Seigneur et tu vas voir le Saint-Esprit va venir. Pourquoi plusieurs personnes ne restent pas dans la prière? Parce que quand tu es dans la prière, tout à coup, tu commences à sentir, tu vois tes nerfs, tu commences à voir ta chair et tu n'as pas de peau. Et là, tu sors tout de suite de la prière. Tu dis, ah, Dieu ne m'a pas écouté. C'est pas que Dieu ne t'a pas écouté. Si tu ne veux pas te voir, rentre dans la prière. Et un temps, dis Seigneur, oh Seigneur, regarde-moi. Et si tu rentres dans la prière, dans le lieu secret, je te garantis, tu vas pleurer. Je garantis que tu vas être Seigneur. Seigneur, je m'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Dieu ne cherche pas des super-héros. C'est fini. Wonder Woman, Superman sont morts. Dieu cherche des gens humbles. Des gens humbles. Dieu élève des gens humbles. Dieu élève des gens rejetés. Dieu élève des gens brisés. Dieu élève des gens sur qui on dit... C'est fini pour cette personne. Dieu prend des Rahab, des prostituées, et il les élève. Il les élève. Dieu va et prend une Ruth, une Moabite, une étrangère, et Dieu l'équipe. Dieu prend des gens qui ont une vie, même des fois, débridée comme Samson. On me dit que Samson, à sa mort, a tué plus de personnes qui étaient contre son peuple que durant toute sa vie. Dieu élève une armée. Ah, j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. La Bible dit, car tous ont péché. Et tous, en 2014, je vais encore dire tous. Et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Quelle bonne nouvelle! It's free! Ils sont gratuitement justifiés. Et Dieu m'a montré, quand des gens, des fois, me critiquent, me parlent, je dis, je suis gratuitement justifié. Et je suis comme le canard, vous savez, le canard avec l'eau. Vous pouvez mettre autant d'eau sur le canard, ça ne va rien lui faire. Pourquoi? Parce que ses plumes sont faites imperméables. Je suis comme le canard avec les critiques. Quel que soit ce que tu fais, alléluia, koraba, sandaraba, bénédiction. Je suis béni par ta présence, je suis béni par ton absence et les deux. Alléluia. Cela n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas de nous priver de sa gloire. Dieu veut nous donner sa gloire. Et vous savez, la Bible dit que nous avons été créés pour sa gloire. Parce que si la Bible dit dans Romains, car tous ont péché et sont privés de sa gloire, ça veut dire qu'au départ, tu avais sa gloire. Mais maintenant, tu es privé de sa gloire. Alors, dans Genèse, notre richesse, c'était quoi? La gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive quand je reconnais mon péché? La gloire de Dieu vient sur moi. La gloire de Dieu. Et là, je commence à chanter. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton. Parce que je suis dans la gloire en toutes circonstances. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir. Obéir à ta voix. Je suis fait pour. Oh, alléluia. Le verset dit que je mettrai en vous un esprit. Et ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais Dieu parle de la paix. La paix. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 27, il n'a pas dit à la planète entière. Il y avait les 12 autour de lui, ils mangeaient ensemble. Et très souvent, on peut lire ce verset, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Il ne disait pas ça aux pharisiens. Il ne disait pas ça à toute la planète, il disait ça aux 12, autour. Il a dit, je vous laisse la paix, leur dit-il. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne, ou comme le monde donne cette paix. Et j'aimerais dire ici que très souvent,
On peut penser que la paix de Dieu, c'est avoir un compte de banque qui va bien. La paix de Dieu, c'est tu sors dehors, puis il n'y a pas de problème, pas de problème de taux. Pas de problème, pas de défi dans le mariage. La paix de Dieu, je vis dans la prospérité de Dieu. Ça, c'est le rêve américain. C'est pas la paix de Dieu. C'est pas comme ça que les disciples ont vécu. La paix de Dieu, ce n'est pas ça. La paix de Dieu, pour bien l'illustrer, il y a deux artistes où on a demandé de faire un dessin symbolisant la paix de Dieu. Un artiste a peint, c'est la prochaine diapo, un artiste a peint et lui, dans son dessin, ce qu'il a peint, c'était deux personnes assises. Et autour, il y avait des fleurs, il y avait du soleil, il y avait vraiment un paysage radieux. Un paysage sur lequel on se croirait, nous, on se croirait au sud. Pour ceux d'entre vous qui avez été au sud, on est bénis que vous avez été au sud. Pour ceux d'entre vous qui avez été au sud, on se croirait au sud. L'autre, il a fait un bateau dans lequel il y avait une tempête, un orage, des flots. Il y avait une barque, et dans cette barque, il y avait des gens qui paniquaient, sauf un monsieur qui, lui, dormait. Et c'est cette peinture qui a été choisie pour la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est cette paix, quelles que soient les circonstances de ta vie, tu peux t'accrocher, tu peux te connecter et dire, et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? On va me dire, t'es illuminé, mais c'est vrai, t'es illuminé par la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Et Jésus a dit que je te donne cette paix. C'est-à-dire, c'est pas une paix sans trouble, c'est pas une paix sans difficulté, mais au contraire, la paix de Jésus peut exister dans un cœur, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est ça l'esprit que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne son esprit, on a la paix, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient tes erreurs, tu n'as pas besoin d'être... Parce que plus on peut marcher en disant, « Mais Seigneur, j'ai fait telle erreur. » Dieu te regarde et dit, tu es blanchi. Ce n'est pas légal ici dans le monde, mais Dieu nous blanchit par le sang de l'agneau. Il dit, tu es blanchi. Quelle que soit ton erreur du passé, tu es blanchi. Blanc, plus blanc que neige. Et tu rentres dans sa présence et tu as la paix. Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on dit, on dit Paul de Tarse, tu as tué des chrétiens. Oui, mais je suis blanchi par le sang de l'agneau. Paul de Tarse, tu étais un assassin. Toi, tu faisais tes... Je suis blanchi par le sang de l'agneau. On dit Matthieu, toi, tu étais un collecteur de taxes. Tu travaillais pour le revenu. Toi, vraiment, tu étais un fraudeur. Je suis blanchi par le sang de l'agneau. On dit Pierre, toi, tu disais n'importe quoi. À chaque fois que tu étais devant Dieu, tu disais n'importe quoi. Je suis blanchi par le sang de l'agneau. On dit à Jean, tu étais un peu peureux, toi. Toi, quand tu arrivais au tombeau, tu laissais les autres entrer avant pour tester si la tombe était sécuritaire. Et Dieu lui dit, tu es blanchi par le sang de l'agneau. Blanchi par le sang de l'agneau. L'autre chose qu'on voit, que Dieu dit, la promesse que Dieu donne, la prédiction dans notre vie, c'est pour ta vie, c'est pour ma vie. Vous vivrez. Et foi, vous vivrez. J'aime cette histoire d'un enfant qui regardait son équipe de baseball jouer. Il regardait son équipe dans un petit stade, baseball, équipe de baseball amateur. Hein? Moi et ma tante Rita, on parle souvent de baseball. Et quand il regardait son équipe, il était là en train de les encourager. Et là, un monsieur qui passait, qui ne regardait, qui a juste eu le temps de regarder les gens courir et tout ça, a demandé, mais quelle équipe est en train de gagner? On dit, est-ce que ton équipe est en train de gagner? Et le jeune avait plein de joie. Et il bouillonnait, il était en feu, c'est un jeune de l'Église Nouvel Espoir. Donc, il bouillonnait, là. On sentait qu'il a l'ADN de l'Église. Et le petit a dit, non, mon équipe perd 8-0. Ah, le monsieur cynique lui dit, ton équipe perd. Ah, tu vois, hein, c'est pas trop bon d'avoir l'espoir dans la vie. Hein, il y a des gens cyniques comme ça. Il y a des gens, là, ils touchent ta batterie, puis elle se décharge. C'est juste à faire 5 minutes avec, 5 minutes même, c'est beaucoup. 30 secondes, puis tu sens ta batterie s'en aller. Et là, le monsieur... qui parle au jeune homme comme ça pendant quelques minutes, et là, le jeune homme dit, « Monsieur, vous ne comprenez pas, on n'a pas encore eu la batte.
on n'a pas encore frappé. J'aimerais te dire que le diable peut t'avoir frappé longtemps, mais je vais te dire, quand tu vas la prendre la batte, ça va faire mal. Ça va faire mal. En boxe, on dit que celui qui frappe en premier, ce n'est pas toujours celui qui gagne. Parce que des fois, quand tu encaisses, une des techniques de boxe, c'est d'encaisser. Tu encaisses assez longtemps, parce que tu sais que quand tu vas avoir encaissé longtemps, quand tu vas lui en donner, oh, hallelujah, ça va faire mal. Vous vivrez. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce jeune avait une foi. Ce jeune croyait en cette parole qui est « Vous vivrez, mon équipe vivra ». Vous savez, les vrais fans d'équipe, ils croient. Le Canadien perd 5-1, puis il reste juste 10 minutes. Vous allez voir les vrais fans, on va y arriver. T'inquiète pas. Piqué va marquer un but. Le point 6 qu'on apprend ce matin, c'est « Vous saurez que je suis l'Éternel ». Le mot « éternel » a des synonymes dans la Bible. Constant, immuable, impérissable, imprescriptible, inamovible, infini, intemporel, interminable, et permanent, perpétuel. Plusieurs d'entre nous, est-ce qu'on sert l'Éternel? Ça, j'ai commencé avec « Jésus-Christ est ton nom ». Jésus-Christ est... Il y a des gens qui chantent cette chanson de cette manière. Je ne sais pas quel genre de guerrier tu es. Je ne sais pas si tu peux gagner. Mais je veux aller à l'église. Et pardonne-moi, parce que je pèche beaucoup. Mais j'ai la foi en toi. Prends courage. Tu es pécheur, mais Jésus t'a dit, fais-moi confiance. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est... Il est immuable. Il est immuable. Il ne change pas. Quand il t'a fait une promesse, ce n'est pas un chèque blanc. Quand tu iras à la banque, il y a quelque chose dedans. Et Dieu a quelque chose pour toi. Tu le crois. Celui qui va au travail, là, il sait que son patron va le payer. La foi, vous exercez la foi tous les matins. Quand vous vous levez le matin pour aller au travail, c'est la foi. Si tu n'avais pas de foi, le jour que ton patron va dire « je ne te paye pas », ta foi est finie. Tu ne vas plus y aller. Pourquoi? Parce que tu sais que dans ton compte de banque, tu ne vas pas recevoir le montant que tu reçois. Ben pourquoi avec Dieu, vous lui dites « je te crois » Mais vraiment, je ne te crois pas. Est-ce que je vais aller à l'église? Oui, non, oui, non, oui. Est-ce que je veux prier? Oui, non, oui, non, oui. Est-ce que je vais être dans ta présence et te louer, quelles que soient les circonstances? Oui, non, non. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Faites-lui confiance. Et Dieu m'a mis à cœur, mon peuple, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Septième des choses, prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, le terme prophétiser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. La prédication est une prophétie. C'est le même terme grec, prophétesse, qui est utilisé pour la prédication de la parole de Dieu. Nous prophétisons la vie dans vos familles, la prospérité dans vos familles, la guérison dans vos familles. Nous prophétisons que des jours meilleurs sont devant vous. Prophétisons cela. Et dans Romains 10, 14, il est écrit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Et là, vous allez dire, « Le pasteur continue à prêcher, pasteur. » Non, ça ne parle pas au pasteur. Parle à nous tous. Comment tu vas prêcher? Et il y a une chose que Dieu m'a dit. Ne va pas prêcher de choses que tu n'as pas vécues. Si tu as vécu une restauration dans ton foyer, parle de la restauration. Si tu as vécu une restauration financière, parle de la restauration financière. Si tu as vécu une restauration dans ta famille, tu as une famille fonctionnelle, Dieu t'a donné cette onction-là. Plusieurs personnes s'en vont parler de choses qu'ils n'ont pas vécues. Quand Dieu te demande de prophétiser, il te demande de prophétiser sur des choses qu'il a faites dans ta vie. Tu as l'autorité sur ces choses-là. Tu l'as vécu. Tu l'as vu. Il y a quelque chose, il y a une onction. Il y a, moi je sais que Dieu, dans ma famille, il a donné une joie. Une joie. Une joie de vivre. Je sais, je vais chez mes parents, il y a une joie de vivre. Je vais chez les parents, mais il y a une joie de vivre. Il y a une joie. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive, il y a une joie. Joie. On se branche à Jésus. Et il y a des gens, tu as une joie. Dieu t'a donné, Dieu t'a créé avec la joie. Et il y a d'autres, Dieu t'a créé avec un discernement. Et va dans le don que Dieu t'a donné et grandis dans ce don. Et remercie Dieu pour cela et commence à prophétiser avec cela. Prophétiser ne veut pas dire à ton voisin, ah, tu sais, ton herbe va jaunir demain. J'aimerais te dire que la prophétie, c'est beaucoup plus profond que cela. Quelqu'un qui m'a parlé dernièrement, puis je travaillais avec cette personne pour plusieurs années, et cette personne me disait certains mots qu'elle avait. Et j'ai dit à la personne, écoute, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ces mots-là. Puis, et c'est pas quelqu'un qui est ouvert à l'Évangile. Je vais prier pour toi. Est-ce que c'est correct que je prie pour toi? Oui. Ça fait des années que je prie pour toi. C'est tout ce que j'ai dit. Et je sais, par la foi, que Dieu répond à cette prière. Faut oser. Mais si, pasteur, mais si Dieu ne guérit pas? Mais c'est un risque. C'est un risque. Dieu ne t'a pas demandé de guérir, il t'a demandé de prier. Et très souvent, on dit, mais Dieu, mais est-ce que comment je vais paraître? Jésus les a envoyés deux à deux avant qu'ils finissent la formation. Deux à deux, va guérir, va chasser les démons. Et ils sont revenus à Jésus dire, mais comment ce démon-là n'est pas sorti? Ça veut dire qu'à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. La même chose pour toi. Il y a des fois, tu vas y aller, puis il y a des fois, tu vas être ridiculisé. Dieu fait ça pour te garder humble. Des fois, tu as besoin de juste, oh Seigneur, parce que ce n'est pas sur toi, ce n'est pas sur ta personne, c'est sur Dieu. Et Dieu veut travailler ton humilité. Dieu veut travailler ta manière de penser. Dieu veut changer. Dieu veut te transformer. Dieu veut te rendre sensible. Tu es dans un restaurant. Il nous arrivait d'être dans un restaurant. Il y avait une jeune dame qui portait le hijab. Et elle avait cela, mais on voyait une tristesse. On voyait une tristesse sur son visage. Et pendant qu'elle prenait son café et tout ça, puis j'ai regardé mon épouse, j'ai dit, on doit la parler. J'ai dit, mais si j'y vais... C'est pas bien. Juste regarder une demoiselle, puis musulmane. Je dis, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je sens. On prenait notre café, on aurait pu sortir de là, on était avec l'équipe, on prenait juste un café, relax. Puis là, tu vas dire, ben, je suis juste là à relaxer, puis non, elle est musulmane. Et, non. On n'a pas dit, il y a une sensibilité. Et quand ma femme, elle l'a approchée, on a su. Il y a certains défis d'emploi qu'elle vivait. Des gens qui l'ostériorisaient. Elle vivait un moment difficile. Et le sourire qu'elle a juste eu de ces quelques minutes. C'est ça, l'Église. C'est ça, l'Église. Madame, qui êtes-vous? Où est-ce que tu habites? Et là, on commence à te poser la question. Où est-ce que tu viens? Et cette personne veut même venir avec toi carrément à la maison. Et là, je veux dire, non, tiens, voici ma carte. Voici qui je suis. Tiens, voici mon nom. Tiens, et c'est comme ça que les gens viennent à Christ. Vous savez que aux États-Unis, il y a un monsieur du nom de Boer, ou B-O-E-R, qui a été chargé il y a, dans les années 1800, pour décourager l'armée. Il était en prison parce que pendant un temps où est-ce qu'on préparait l'armée par rapport à un combat, on l'a chargé parce que lui, il allait et il disait, « Oh, vous n'allez pas gagner. On va pas gagner. » Il était dans l'armée lui-même et il parlait aux militaires du poids. « On n'a pas assez d'armes, voici ce qu'on a. » On a dû l'arrêter. Il dit, écoute, toi, tu as un esprit de découragement. On va te sortir des troupes. On va te garder juste pendant le temps qu'on va aller en guerre parce qu'on a besoin d'avoir un esprit qui croit. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il nous faut canaliser tout ce qui est cynique en nous afin que Dieu agisse et afin qu'on puisse prophétiser. Parce que pour prophétiser, il faut croire en ce qu'on prophétise. Si tu ne crois pas que Dieu change les vies, tu ne parleras jamais pour dire que Dieu change les vies. Si tu ne crois pas que Dieu restaure financièrement, comment tu vas croire? Si tu ne crois pas que Dieu libère, restaure, comment tu vas parler là-dessus? Ça va être naturel pour toi de parler. Si tu sais que le Canadien a gagné vendredi, tu vas en parler avec foi et ferveur. Pourquoi? Parce que tu sais, j'ai vu la game. La même chose avec la foi. J'ouvrirai vos sépulcres. J'aime le terme sépulcre ici. Parce que c'est comme ça paraissent nos vies à l'intérieur, le cramoisi, dégueulasse. Partout ici, nous avons de la laideur dans nos vies. Mais Dieu dit, je vais ouvrir ton sépulcre. Je vais te sortir de ton sépulcre. Je vais te sortir de tes saletés. Je vais te sortir de ton raisonnement divergent. Je vais te sortir de cela. Alors, pour que Dieu te fasse sortir de ton sépulcre, il faut que tu acceptes que tu es dans un sépulcre. Il faut que tu acceptes que ta manière de penser n'est pas la bonne manière. Une des premières choses qu'on fait dans les 12 étapes, c'est la reconnaissance. Dire à la personne de reconnaître son problème. Et je crois qu'en tant que chrétien, c'est un style de vie, quel que soit le péché. Seigneur, je reconnais. La reconnaissance, afin que Dieu nous fasse sortir de notre sépulcre. Je vous ferai sortir de votre sépulcre. Et le Seigneur veut nous influencer. Vous savez, le terme cosmos, c'est le terme qui est utilisé pour le monde. Terme grec. Et quand Dieu dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés, il dit, ne vous conformez pas à la mentalité du cosmos, mentalité financière, comment les gens vivent la culture, quelle que soit la culture. J'ai une culture. Dieu dit, moi, j'ai une culture. J'ai un royaume. Il n'y a aucun ambassadeur. L'ambassadeur du Canada, que ce soit en Chine, que ce soit dans un pays africain, que ce soit en Europe, ne va pas revenir ici habillé en boubou africain et dire « Ah, je suis l'ambassadeur du… » À moins que ce soit une soirée spéciale et là, il va… Mais il a toujours son costume canadien, il y a le drapeau canadien, il y a une senteur de sirop d'érable à l'ambassade du Canada. Pourquoi? Parce qu'il représente le Canada. Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs ambassadeurs du royaume qui sont rendus undercover. Des ambassadeurs, on ne sait plus de quel pays vous êtes. Vous représentez un royaume, le royaume de Dieu. Est-ce que vous le représentez ou vous êtes toujours, toujours caché? Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et Dieu ici m'a montré que nous sommes des locataires. Tu es un locataire. Tu es content de ta maison, tu es content de tes choses, tu es content de tes acquis. Mais sache une chose, ce n'est pas ta résidence. Pour ceux ici qui ont voyagé, qui sont allés, quel que soit où est-ce que vous êtes allés en vacances ou dans un temps, vous avez dû habiter quelque part pour le travail, vous savez que vous n'allez pas y rester. Et on sait qu'on n'achète pas trop des affaires chères. Quand mon père étudiait, on a beaucoup déménagé et on vivait souvent dans des appartements et on avait certaines choses. C'était bien, c'était beau, mais on avait certaines choses. On n'achetait pas des choses qui allait être trop cher parce qu'on savait qu'un jour, on allait partir. On devait acheter des choses qu'on pouvait vendre assez rapidement parce qu'on savait qu'on devait partir. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie comme s'ils vont rester sur terre. Et si l'Esprit de Dieu disait, écoute, non, Dieu va te ramener en Israël. Dieu va te ramener, il va te ramener dans sa maison. Dieu va te ramener vers l'éternité, vers ce royaume qu'il a promis à son peuple. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Et on revient semaine après semaine avec ce message parce que c'est le message clé de l'Évangile. Dans Jean-Baptiste avait un thème, « Repentez-vous car le royaume est proche. » Très souvent, on va créer des nouvelles thématiques et tout ça, c'est bien, on veut cela. Mais avec « Repentez-vous car le royaume est proche », Jean-Baptiste en a amené plusieurs. Pourquoi? Parce que les gens avaient réalisé. Ils avaient réalisé qu'il y a quelque chose. On n'a pas encore compris ça. Ils revenaient tous les jours. Repentez-vous, car le royaume est proche. Change ta manière de penser, car le royaume est proche. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. J'aimerais te dire ce matin que quand Dieu va agir dans ta vie, et c'est ma prière ici pour chacun de nous durant cette série, que Dieu commence à agir dans nos vies. Parce que quand Dieu va agir, il y a des choses que Dieu fait et tu dis... Ça n'aurait pas pu arriver si ce n'était pas toi. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des choses que l'homme est capable de faire. Nous voulons des choses que seul Dieu peut faire. Des choses, des familles qu'on dit, ils vont plus parler. Ce n'est pas possible, mais Dieu les ramène ensemble. Des foyers que tout le monde dit, eux là, 6 mois, ils vont être ensemble pour l'éternité. On veut voir des gens, on dirait, l'école, toi l'école, ce n'est pas fait pour toi. Tu deviens docteur. Alléluia. Alléluia, c'est ça qu'on veut voir, Dieu agir. Et il finit par dire, je mettrai mon esprit en vous. Et Dieu répète ce thème, l'Esprit, le Saint-Esprit. L'Esprit, la joie. L'Esprit, dans 2 Pierre 1, il est écrit, quand en Christ, nous avons part à sa nature divine. Saint-Esprit, paix, joie, mais à la fin, on va avoir part à sa nature divine. C'est la plus grande promesse. La plus grande promesse qu'on va avoir, parce que l'homme est corps, âme et esprit. L'âme ne peut pas vivre tout seul. L'esprit ne peut pas vivre tout seul. Quand tu vas avoir ton corps glorifié, alléluia, oh, tu vas te regarder au miroir, tu vas dire, waouh, quelle merveilleuse créature que je suis. Au ciel, tout le monde est beau. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne qui se regarde au miroir avec une crise d'identité au ciel. Dit, waouh, quelle bonne nourriture qu'on mange ici, on est en santé. Tu vas manger la nourriture qu'Élie a mangée. Et on dit qu'Élie, quand il a mangé ça, il a couru plus vite qu'un chariot. Va essayer ça avec ta voiture aujourd'hui. Il y a un pasteur qui était découragé. Puis à un moment, Dieu lui a parlé, un moment de foi. Puis il était découragé parce que Dieu lui a dit, écoute, frappe cette pierre afin qu'elle se brise. Frappez la pierre, il frappait la pierre, mais la pierre ne se brisait pas. Il dit, OK. Il dit, va vers le marbre, puis frappe le marbre afin qu'il se brise. Il est allé vers le marbre, ça, il n'arrivait pas. Quel que soit ce que Dieu lui demandait, prends ce métal, puis brise-le. Puis il n'avait pas tous les outils, là. Je sais qu'il y a des hommes d'outils ici, ils disent, ah, ben pourquoi il aurait pu le briser avec tel outil? Il n'avait pas tous ces outils-là. Et là, finalement, il est allé devant Dieu, puis il dit, Dieu, j'arrive pas. Tout ce que tu me demandes de faire, j'arrive pas à le faire. Et Dieu lui dit, écoute, toi, ton travail, c'est d'obéir. Moi, mon travail, c'est de le faire. Arrivez. Attends, sois patient, frappe, frappe, frappe. Regarde pas, et très souvent, c'est notre défi, Seigneur, j'ai besoin d'une bénédiction financière. Et là, tu commences à regarder avec un œil. Seigneur, elle n'arrive pas à la bénédiction financière. Fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Dieu ne nous dit pas ça. Dieu nous dit, frappe, continue, persévère, à genoux, intercède. Il y a quelque chose. Seigneur a quelque chose pour toi. Un chrétien est toujours en attente de quelque chose. Toujours. En conclusion, ce matin, ma prière est très simple pour notre Église et pour chacun de nous. Il y a plusieurs d'entre vous qui avaient des ossements desséchés. Dieu m'a montré par la foi, plusieurs ici, et dans la prière, Dieu m'a montré qu'il y avait plusieurs ici qui, vous avez des circonstances parce que vous ne croyez pas. Vous venez toutes les semaines, on dit un de mes mentors m'a dit, les chrétiens, nous, on ne dit pas des mensonges, on chante les mensonges. Mais j'aimerais te dire ce matin que ça peut changer. Les mensonges de ta vie peuvent changer en louange. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu te parle ce matin et te dit que tes ossements peuvent reprendre vie. Il y a quelques années, juste pour énumérer, à 3 ans, j'ai eu des défis au travail, des grands défis. Vous avez eu l'opportunité l'année passée de lire dans les médias pour certains d'entre vous ce qui est arrivé et tout ça. Et plusieurs personnes venaient à tour de rôle me dire, hey, tu sais, c'est fini, tu es fini. Et j'avais même des gens d'église qui venaient. Et l'Église Nouvel Espoir ne veut pas être connue pour son cynisme. Ici, heureusement, on a des gens qui se rechargent la batterie. On a des gens qui ont la foi, des gens qui sont là pour monter les autres, pas des gens qui sont là pour en détruire. Mais malheureusement, j'ai des gens aussi, dans le milieu, dans le cercle, qui venaient me dire, et je le dis pas pour critiquer personne, je le dis juste pour te dire, si maintenant il y a quelqu'un qui t'a découragé par une parole de découragement, et tu dis, mais cette personne était un homme de foi, accroche-toi à Jésus. L'homme peut te décevoir. Il y a des gens qui sont venus et ont dit un peu du n'importe quoi. J'ai été surpris parce que j'ai été soutenu par plusieurs personnes aussi. Même au travail, j'ai été soutenu par plusieurs personnes. Des gens que vous n'imaginerez même pas par leur conduite. Oui, c'est des gens honnêtes et tout ça, mais des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui aiment la vérité. Et on a vécu des années dans lesquelles, même à des fois, on se demandait bien, comment on va payer nos factures. Comment on va arriver à la fin du mois en tant que famille? Il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on ne voulait même pas dire. On restait dans la prière avec mon épouse. Les enfants, il fallait qu'on continue à vivre. Il fallait qu'on garde le dos droit, quelles que soient les circonstances. Vous savez, il y a des circonstances qui t'arrivent dans la vie. Tu sais que tu es innocent. Mais c'est comme cette personne qui finit en prison. Elle sait qu'elle est innocente et elle dit, je suis innocente. Vous savez qu'en prison, on sait que la majeure des parties des gens disent qu'ils sont innocents. Alors, même si cette personne est innocente, La majorité d'entre nous, nous avons le scepticisme en nous. Et Dieu m'a mis à cœur, regarde ce que tu vis. Pendant ce temps-là, ce que je vivais des temps seuls, des temps où est-ce que j'allais rechercher son cœur, mais mes ossements étaient desséchés. Et j'allais dans la prière et Dieu m'a montré un rêve. Dieu, dans ce rêve-là, il y avait une grande oreille. Je me suis levé puis j'ai dit à mon épouse, j'ai rêvé une grande oreille puis il y avait une tonne de gens qui venaient me voir puis on les aidait puis tout ça. Puis ma femme, elle me dit, calme-toi là. Elle est bonne pour me ramener sur terre. Calme-toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur que cette oreille, c'était que il y a plusieurs personnes ici, vous souffrez. Il y a plusieurs personnes dans cette ville qui souffrent. Mais il n'y a pas d'oreille. Il n'y a personne pour les écouter. Il n'y a personne pour les entendre. Même, quelles que soient les fautes qu'ils ont faites dans le passé, Christ est venu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ n'a pas dit à l'homme à côté de lui à la croix, « Hey, tu es ici, rappelle-toi pourquoi tu es ici. Hein? Tu dois d'abord confesser pourquoi tu es ici. Confesse dans ton cœur, repente. » Non, dis, ce soir, tu vas être avec moi. Tu as proclamé, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Et jour pour jour, 3 ans, jour pour jour. Après la nouvelle de l'année passée, j'ai même eu des appels au téléphone, des gens qui ont dit des choses difficiles. Mais comme j'ai dit, je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui, j'ai fondé ma vie. J'ai fondé ma vie. Quelles que soient les circonstances, c'est la même chose, cette Église. Dieu m'a montré par la foi, cette Église est ancrée en lui. Et nous avons combattu le bon combat. Et aujourd'hui encore, j'ai plusieurs personnes au travail, plusieurs officiers qui m'appellent pour me dire, c'est incroyable. Incroyable et impossible. J'ai dit, vous suivez la série à l'église ou quoi? C'est incroyable et impossible. J'ai dit, mon Dieu est incroyable et impossible. Dieu m'a donné une clé pour pouvoir proclamer son nom. Dieu m'a équipé pour pouvoir mieux proclamer son nom. J'aimerais te dire que je ne suis pas privilégié auprès de Dieu. Je n'ai pas une ligne directe. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait que Dieu m'a donné ce privilège de vivre une délivrance. Je crois que nous avons tous cette provision. Je crois qu'en Christ, nous sommes ici. Et j'ai vraiment à cœur ce matin, tu as des ossements, tu as des lieux dans ta vie où tu dis, Seigneur, ça ne marche pas. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prier, je ne vais appeler personne en avant, mais nous allons prier ensemble en tant qu'Église. Nous allons prier ensemble pour ces ossements desséchés. Et nous allons demander à Dieu de venir de restaurer, de venir donner l'espoir, de venir guérir, de venir donner un nouvel espoir. Oh Jésus, oh Jésus, tu vis Seigneur, tu vis Jésus, oh, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle, le permet, oh, à personne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, oh, entre tes mains, Seigneur. Oh, j'abandonne. Fois entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle pour ne permettre à personne. Seigneur, Seigneur. Oh, oui, prends tout ce
Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Avec Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits d'une dimension ordinaire. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons vu dans le passé. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos foyers. Plus de toi dans notre vie, dans nos travails. Plus de toi dans notre Église. Je te remercie, Seigneur, pour la moisson. La moisson, Seigneur, qui se multiplie. Je te remercie parce que le diable n'aura pas le dernier mot. Je te remercie parce que par la foi, nous prophétisons, Seigneur, une percée. En 2014, on dit « vent dans le dos ». Percée dans la vie des gens, Seigneur. Les ossements desséchés dans les vies des gens ici, Seigneur. Au nom de Jésus. Du haut de la chair, Seigneur, tu délivres. L'incrédule commence à croire. L'incrédule commence à proclamer tes merveilles. Quelle que soit la personne qui écoute, que ce soit par le truchement de l'Internet, Seigneur, que l'incrédule commence à vivre. Que le riche dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche en lui. Que celui qui a des défis, des addictions, dise, je suis libéré. Celui qui est malade dit, je suis guéri en Christ. Oh Jésus, ton Saint-Esprit est manifeste, Seigneur. Et tu agis, Seigneur. Seigneur, touche ton peuple. Touche ton peuple encore une fois. Rends-lui digne de cet appel. Rends-lui digne de ton appel. Qualifie, Seigneur. Seigneur, tu ne cherches pas des gens qualifiés, tu cherches un cœur. Tu cherches des cœurs et toi, tu qualifies. Oh, Jésus. Ton feu, Seigneur. Ton feu dans les vies, Seigneur. Oh, Jésus. On te remercie, Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Nous te donnons nos circonstances. Et nous savons, Seigneur, que nous avons la victoire. Nous reconnaissons notre identité. Et nous refusons de vivre dans la défaite. Nous nous accaparons de la paix, celle que tu donnes, quelles que soient les circonstances. Et nous savons que tu agis dès maintenant et pour l'éternité. Dans ton nom tout-puissant. Et parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez de la joie, il doit y avoir une ovation qui suit. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Bon dimanche! Bon dimanche!
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.